Alors je vous invite à retrouver l'épître à Timothée, à chercher dans vos Bibles la première épître à Timothée. On est arrivé au chapitre 6, c'est les deux premiers versets, et donc c'est la suite. Et on ne va pas aller tout à fait jusqu'à la fin, on va regarder un petit peu quand même. Ouais, regardez la conclusion et les salutations finales. Donc les épîtres, comme on dit, pastorales. Première à Timothée. Alors de quoi cela va causer? Vous savez que l'État a des problèmes avec les mouvements sectaires, les sectes. Et elle est très vigilante là-dessus. Et c'est surtout pour les questions d'argent. Souvent, les gens se laissent entraîner et puis là, on leur aspire leur argent. Et l'État est vigilante là-dessus. Et en tant qu'association cultuelle, il nous faut être très, et c'est normal devant le Seigneur, être très, très rigoureux là-dessus. Sur ces choses-là. Toutefois, notre église ici, elle n'est pas beaucoup concernée par ces choses-là, parce qu'on est peu nombreux, donc on brasse pas beaucoup d'argent, et on est vraiment parti négligeable. On n'a pas de gros moyens, et on n'a personne qui soit salarié ou personne qui reçoive quoi que. On n'a pas de voilà, mais c'est pas comme l'église d'Éphèse du temps de l'apôtre Paul, c'était une autre chose. À Éphèse, on a vu dans le livre que il y avait des diacres, il y avait des anciens, et que les anciens ils étaient soutenus, les pasteurs étaient soutenus, ils recevaient quelque chose. Et soutenu dans leur travail, les diacres également, hein, si on peut le comprendre comme ça. Quand il est écrit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, c'est un petit peu comme si on disait, ils vont avoir une période de décès. Les diacres étaient consacrés à l'église également, donc il fallait bien qu'ils vivent. Et on voit aussi qu'ils avaient de l'argent même pour soutenir les veuves. Et donc, c'était une grande ville, et à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule église. Et donc, on peut imaginer qu'ils étaient nombreux, effectivement. C'était un ministère de Paul, il était resté là très longtemps. Et donc, c'était peut-être une église vraiment solide à Éphèse, la capitale de l'Asie. Et là, donc, il va un petit peu parler des problèmes d'argent et mettre en garde Timothée. Alors, je prends la lecture au chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des controverses, des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre les hommes, à l'intelligence corrompue, privée de vérité, je lis dans la seconde 21, qui croit que la piété est une source de profit. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège, dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Verset 11. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, celle à laquelle tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins devant Dieu qui donne vie à toutes choses, devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a pu voir, ni ne peut, n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu qui nous donne avec abondance tout pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Donc le titre du message que j'ai choisi, c'est que bien que contestée, la vraie foi est et reste la vraie richesse. Bien que contestée, la vraie foi reste la vraie richesse. Dans les... Et oui, j'ai noté un verset également qui pourrait illustrer ce passage où l'on peut mettre en arrière au fond qu'on retrouve sur le sermon sur la montagne, à Luc 16, 13 également, le Seigneur a dit ceci. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et du verset 3 au verset 10, on voit qu'il est question de la fausse doctrine, la fausse piété qui aspire à Mammon, qui est la fausse richesse. La fausse doctrine, la fausse piété aspire à Mammon, la fausse richesse. Verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété. Ce mot... s'attacher est traduit diversement. En tout cas, c'est le même mot que l'on trouve un petit peu plus haut dans l'épître, au chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est le même mot ici. Donc, ne pas s'attacher, c'est ne pas aspirer aux saintes paroles. Le problème n'est pas de se tromper à un moment donné parce qu'on comprend mal un point ou l'autre de doctrine. Le problème, c'est de ne pas aspirer à la vérité, de ne pas aspirer à comprendre la vérité que le Seigneur enseigne dans sa parole. Le problème avec les faux docteurs, c'est que quand le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible n'ont pas l'autorité. Et donc on voit les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ne pas s'attacher à cela, ne pas aspirer à les comprendre, ne pas aspirer à les saisir. Et l'enseignement qui est conforme à la piété, et on voit ici un lien entre tout enseignement, toute doctrine chrétienne et les œuvres que cela produit. La foi produit des œuvres en nous, et une vie qui est transformée, et donc les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, cela forme un tout. Donc le verset 4 et 5, donc cet homme-là est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses, des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre les hommes à l'intelligence corrompue, privée de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. La fausse doctrine vise la fausse piété. Le faux docteur est aveugle, il est ignorant, il est malade quelque part, de l'esprit de controverse, de vouloir avoir raison, de inventer quelque chose, inventer une nouvelle doctrine, inventer un nouveau truc, de vouloir parler, de vouloir paraître, de vouloir se mettre en avant à travers tout cela. Proverbe 18, 2 dit ceci: ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Et ça ne peut pas donner de bons résultats, évidemment. Tout cela s'accompagne d'une religiosité d'apparence, parce que dans le milieu chrétien, pour être crédible, il faut être pieux. Et donc, il y a chez ces gens-là une forme de piété. Mais une piété qui a un but, c'est de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir toucher le pactole, de pouvoir vivre aux dépens de l'Église. C'est un peu comme en politique, hein. Bon, pour faire de la politique, il faut bien parler, mais aussi il faut avoir une costume cravate, et puis il faut s'intéresser quand même aux gens. Mais l'objectif, c'est quand même d'avoir l'ascendant et d'être dans la lumière. C'est ça qui plaît aux hommes politiques. Mais il faut le reste. Il faut quand même s'intéresser aux gens. Il faut quand même avoir un beau costume et une belle cravate. Et il faut quand même savoir bien parler. La fausse doctrine vise à la fausse piété. Pourquoi ? Parce que la fausse piété, à travers la fausse piété, il vise l'enrichissement personnel. Donc ces gens-là croient que la piété est une source de profit. La piété est une grande source de profit quand on se contente de ce qu'on en a. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons le vêtement, la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Bon, vous avez déjà peut-être entendu des économistes qui voient la religion comme un marché. Il y a un marché là parce que les marchés, ça vient quand il y a des besoins. Et il y a des besoins. Les gens, ils ont des besoins. Ils ont toutes sortes de besoins dans leur vie, des choses qui ne vont pas. Ils se posent des questions existentielles. Ils sont peut-être en recherche de Dieu. Et là, il y a un marché. Et peut-être, on peut voir les choses comme que les pasteurs sont un petit peu comme les artistes ou les footballeurs. Il y en a 99% qui ont du mal à vivre, à en vivre de leur travail. Et puis il y a quelques-uns qui percent et qui s'en mettent plein les poches. Mais bien sûr, au 21e siècle, c'est un peu différent du temps de l'apôtre. On a besoin d'autre chose que de la nourriture et du vêtement. On en a parlé tout à l'heure. Même s'il nous envahit beaucoup, ça, le téléphone aujourd'hui, on ne peut pas faire grand chose. Et puis sans réfrigérateur, hein, sans payer les polices d'assurance et sans cotiser pour l'assurance, pour la maladie et pour la vieillesse, tout ça, ce sont des charges qui sont communes à bien des personnes et pour autant, de là à viser l'enrichissement personnel, c'est autre chose. La piété est une source de profit en ce que l'apôtre a enseigné un petit peu plus tôt, qu'elle avait la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Mais cela va de pair avec le contentement, se contenter de ce que l'on a. Se contenter de ce que l'on a. Versets 9 à 10. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège, dans une foule de désirs stupides, nuisibles, qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux, ainsi livrant. Certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Le désir d'enrichissement personnel est un piège terrible qui peut hélas toucher plus que les faux docteurs, plus que les faux apôtres. Il peut nous toucher à nous aussi. Hein. Et on sait comment ça se passe. Les désirs d'enrichissement, quand on a un désir d'enrichissement personnel, c'est un désir qui n'est jamais comblé. Il en faut toujours plus. On peut acheter une voiture neuve et avoir un grand plaisir pendant quelques heures, pendant quelques jours, pendant quelques semaines d'avoir une voiture neuve. Mais après, peut-être, on va penser, ah, mais avec le temps qui fait là quand même. Si j'avais une moto, ce serait quand même bien. Et il faut ajouter à la voiture la moto, il faut ajouter à la moto le bateau, il faut ajouter au bateau l'avion personnel. Et il y a besoin de toujours quelque chose qui manque. Le désir d'enrichissement n'est jamais comblé. Et ce désir d'enrichissement conduit à la ruine. Conduit à la ruine spirituelle, écrit l'apôtre. Plonge les hommes dans la ruine et provoque leur perte. J'ai choisi un exemple de faux docteur. Bon. Moi, je connais pas grand-chose, je sors pas beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, ou tout ce qui se passe dans l'actualité. Mais il y a quelque temps, il y avait Joyce Meyer qui était venue, c'était en 2015. Cette dame était venue à Paris, et c'était un problème, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Bon, le CNEF avait pris position, en la classant dans l'évangile de la prospérité. C'est certainement une personne qui était honnête, qui est honnête, qui est peut-être sans doute sincère, mais avec sa voiture de luxe, avec son jet privé, quel rapport entre sa vie et la vie de Jésus-Christ que nous avons chanté pendant notre culte? Quel rapport entre les deux? Quel rapport entre son message et le message de Jésus? Il manque beaucoup de choses. L'apôtre veut nous conduire plus loin. La fausse doctrine, la fausse piété aspire à mammon, la fausse richesse, et la vraie doctrine, la vraie piété aspire à Dieu, la vraie richesse. Voyons les versets suivants. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi, en présence d'un grand nombre de témoins, devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit honneur, puissance éternelle. Amen. La doctrine n'est pas sans la piété, et la piété n'est pas sans la doctrine. La vie chrétienne fait un tout. Le verset 11. Fuis ces choses qui concernent les faux docteurs. Et recherche quoi? La justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Quelle justice? La justice de Dieu. Quelle piété? La piété envers Dieu. Être reconnaissant à Dieu, pratiquer les œuvres que Dieu a préparées à l'avance, prier Dieu. La foi, il s'agit bien de la foi en Dieu. Et l'amour, il s'agit bien de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs et destiné à aimer son prochain comme soi-même. Et la persévérance, c'est la persévérance dans notre marche vers Dieu. Et la douceur, c'est la douceur envers son prochain. Oubliez la quête personnelle, la recherche de quelque chose pour vous-même. Oublions de chercher quelque chose pour nous-mêmes. Chercher à s'enrichir, c'est chercher à s'enrichir pour nous-mêmes. Il faut oublier cela. La vraie doctrine et la vraie piété aspirent à Dieu. 12-13. Menez le bon combat. Le bon combat de la foi. La foi, c'est la fidélité à Dieu. Rester fidèle à Dieu. Saisir la vie éternelle. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle et nous qui devons tendre le bras pour nous en approprier. Et il est question du témoignage. Jésus a dit à Pilate, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate n'a rien compris à cela. Il a dit plus tard, vous recevrez une puissance à ses disciples, donc avant d'être enlevé au ciel. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Témoigner. Le combat de la foi, c'est aussi un combat. Être fidèle à Jésus, c'est un combat en ce qui concerne le témoignage, l'évangélisation. Verset 14-16. Je t'ordonne de garder le bon commandement en vivant sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui est la vraie richesse. Un jour viendra, nous le verrons tel qu'il est. Ça vaut la peine de relire des passages qu'on a lus dans Pierre, premier épître de Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Un commandement reçu associé à une vie pure, sans tâche, sans reproche. Et on a lu dans l'épître de Jean, Morel a fait le premier chapitre, et voilà ce qu'on lit au chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dieu est la vraie richesse à laquelle nous devons aspirer. La vraie doctrine et la vraie piété aspirent à Dieu, la vraie richesse. Et un exemple que l'on peut laisser, je vous propose l'exemple de Jésus de Nazareth, la façon dont il a vécu, la façon dont il a été, sa piété, sa foi en Dieu, et la façon dont il a enseigné également. Aspirer à Dieu, la vraie richesse. Et les versets qui suivent. Aux riches de ce monde, ordonne ne pas être orgueilleux, ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. L'argent doit être au service de Dieu, la vraie richesse. Alors, verset 17, par rapport à ceux qui ont de l'argent, nous faisons partie des nantis de ce monde, il ne faut pas l'oublier, même si on n'en a pas l'impression. Verset 17. Ne pas être orgueilleux, ne pas mettre l'espérance dans les richesses incertaines. Purifier l'argent de l'orgueil et de la fausse sécurité qu'il procure. Purifier l'argent de tout orgueil et de toute fausse sécurité. C'est pas un problème d'avoir de l'argent si on n'en éprouve pas de l'orgueil. Comment il est facile d'être fier de ses capacités, d'être fier de sa réussite dans ses études, d'être fier de sa famille qui a permis cela ou qui nous a donné de très bonnes conditions de vie. Il est très facile de tomber dans l'orgueil quand on a un petit peu d'argent. Et ce n'est pas un problème d'avoir de l'argent si ce n'est pas pour nous un refuge, un rival de Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il m'est venu à l'esprit ce verset, Ecclésiaste 10-19. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. C'est l'observation que faisait l'Ecclésiaste sous le soleil. L'argent répond à tout. Et il y a beaucoup de personnes dans notre monde qui sont convaincues que l'argent répond à tout. Et donc avoir de l'argent, c'est avoir de la sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité pour sa santé, sécurité pour la grêle qui tombe, sécurité pour tout et n'importe quoi. Non. C'est Dieu qui répond à nos besoins. C'est lui qui est notre sécurité. Et si nous avons un peu d'argent, c'est un don de lui. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêt à partager. Avoir de l'argent est une responsabilité. on peut en profiter de façon juste si aussi on en fait profiter les autres. C'est un petit peu ce que je comprends de ce verset. Dieu donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, mais il s'agit bien de partager. Il s'agit bien d'être des canaux. Et donc avoir de l'argent est quand même, je trouve, une grande responsabilité. Oh. Les personnes qui n'ont rien n'ont pas ce problème-là du tout. Verset 19. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. Même si on est riche, on peut saisir la vie éternelle comme les autres. On peut saisir cette vie éternelle. Vous avez peut-être en mémoire l'histoire du jeune homme riche, Marc 10, 25, 27, cet homme qui va vers Jésus, qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, tu viens et suis-moi. » Et le jeune homme est reparti tout triste parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de biens. Et les apôtres sont un peu dépités quand Jésus leur dit « Il est plus difficile à un riche de passer par une plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. » Et les apôtres ne comprennent pas. Et Jésus lui dit aux hommes « Qui peut être sauvé aux hommes ? C'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. » Être riche est un handicap par rapport à quelqu'un qui est pauvre, mais Dieu peut utiliser pour sa gloire des hommes qui sont riches et qui vont pas être orgueilleux et qui vont ne pas du tout se confier dans leur richesse. Mais qui vont s'attacher à redistribuer. Alors j'ai un exemple, une personne qui est décédée il y a quelques années, qui s'appelait Monsieur Bouni, et il était producteur de champagne. Il avait une propriété en champagne, donc il avait reçu ça de ses parents. Ça se transmet de génération en génération, et il avait ça, qui était une immense capital. Il était né au bon endroit, au bon moment. Et il connaissait bien son métier de faire du champagne. Et il n'empêche qu'il s'était converti. Et c'était un homme à la fois très humble et il était aussi très généreux. On raconte qu'il chaque semaine, il allait chercher à la banque pour ses besoins. Et il utilisait l'argent dont il avait besoin dans la semaine et le reste. Il y avait deux enveloppes. Il y avait une enveloppe pour porte ouverte et une enveloppe pour voir dans le désert. Et une semaine, il mettait l'argent dans porte ouverte et une semaine, il mettait l'argent qui lui restait dans bois dans le désert. Et c'était sa piété. Et à la fin de l'année, bien sûr, ça faisait des sommes énormes qu'il y avait des milliers et des milliers d'euros qu'il y avait pour les œuvres. Voilà. Qu'il avait à cœur. Et c'était un homme avec une foi très simple, une foi d'enfant. Alors cela est possible. Cela est possible d'être riche et de saisir la vie éternelle. Pour conclure, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24, Luc 16, 13, je vous recommande dans votre lecture personnelle, comme pour prolonger cela, de regarder un petit peu le contexte dans lequel Jésus a dit ces paroles-là dans deux contextes différents, à Matthieu et à Luc. Et c'est très intéressant de voir Je vous encourage à lire tout le texte qui entoure cela, parce que dans ce texte-là, Jésus s'adresse à tout le monde, pas seulement à ceux qui sont riches, et pas seulement à ceux qui ont des responsabilités, qui sont responsables dans l'Église. Je voudrais terminer par un petit chant. Donc, je vais d'abord prier, après je ferai le petit chant. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce qu'elle contient. Merci de nous garder loin de l'attrait de la richesse, cette fausse richesse, loin de l'attrait de cette fausse piété, de cette fausse foi faite de discours, de blablabla, et de choses creuses, d'une religion de surface et qui ne produit pas de bons fruits. Seigneur, merci de nous faire, de nous permettre de saisir cette vie éternelle, cette vraie richesse qui est toi. Et rien que toi, c'est vraiment toi qui es le plus grand bien ici-bas. Et c'est vraiment vers toi que l'on doit aspirer. Merci Seigneur de ce que tout le monde peut aller, même les personnes qui sont riches, elles peuvent venir à toi, elles peuvent trouver en toi leur véritable richesse. Et Seigneur, merci pour ces personnes riches qui savent quoi faire de leur argent et qui sont sages et dont l'argent ne leur tourne pas la tête ni le cœur, mais qui restent humbles et agréables à toi. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors j'ai prévu un petit chant que je vais vous chanter de l'oncle Jacques, justement celui qui a fondé la voie dans le désert, qui fait ceci. C'est ce verset. Nul ne peut servir de maître. Le chant fait comme ça. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux ne soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre, un jour, il faut décider. Décide qui tu veux suivre, à qui tu veux t'attacher. Celui pour qui tu veux vivre, à qui tu veux tout donner. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux ne soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre, un jour, il faut décider. Le monde t'offre ses richesses, mais Jésus t'offre sa paix. Oh, donne-lui ta jeunesse, c'est lui la vraie liberté. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux ne soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre, un jour, il faut décider. Un jour, il faut décider.